C'est peut-être que vous avez prié pour Marcel Dongala, vous avez dit, vous avez vu le planning, et vous savez que c'est lui qui devait prêcher ce matin. Peut-être que vous êtes déçus, hein, mais ce n'est que partie remise. Hein. je n'avais pas terminé tout ce que je voulais faire la semaine dernière. Et puis aussi, donc les frères vont intervenir, hein, bien sûr, pour cette série que nous voulons avoir dans 1 Pierre. Donc je vous invite à reprendre cet épître de 1 Pierre, chapitre 1. Nous avions dit que Pierre écrit à des croyants pour les affermir et pour les assurer que la grâce de Dieu à laquelle ils sont attachés, ça c'est un verset même de cette section, la grâce de Dieu à laquelle ils sont attachés est la véritable et qu'ils restent attachés à cette grâce. Même si les difficultés sont là, même s'il y a des difficultés dans la famille, dans le foyer, dans le milieu du travail, on a vu que Pierre parle de toutes ces choses-là avec le patron, avec les frères et sœurs, avec le mari, la femme, dans tous les aspects de la vie, même s'il y a des difficultés, eh bien qu'il faut tenir, bon. Il écrit cette lettre pour les encourager dans la souffrance en donnant à beaucoup d'endroits l'exemple de Jésus-Christ qui, lui, a aussi souffert. Mais ce qui est intéressant de considérer, nous l'avions dit, c'est que naturellement, nous aurions écrit à quelqu'un qui souffre en commençant à lui donner des exhortations ou des encouragements quelque part, hein, trouver des mots pour lui dire quoi faire. Et souvent, quand on est dans la difficulté, on veut savoir ce que je dois faire avec mes 10 droits, hein. Quelle action je peux mener. Et en lisant cet épître de Pierre, on voit qu'il écrit à ses croyants en ne leur disant pas tout de suite quoi faire. Il n'y a pas d'exhortation avant, je crois, le verset 13, où il y dit, c'est pourquoi, chapitre 1, saignez les reins de votre entendement. D'accord ? Il n'y a pas d'exhortation. Ce qu'il fait d'abord, c'est qu'il va leur expliquer qui ils sont. Hein, qui ils sont. Et c'est intéressant de considérer cela. Hein. C'est-à-dire que notre premier besoin, quand nous sommes dans des difficultés, ne consiste pas à faire quelque chose, mais à savoir d'abord des choses, à penser des choses. Et c'est là, un frère a prié tout à l'heure, je crois qu'il a dit, voilà, il y a des choses qui se jouent dans nos pensées, hein, c'est là que les choses se jouent. Et Pierre va fixer leurs pensées sur qui ils sont, en fait, premièrement. Et après, il va dire, c'est pourquoi faites ceci. D'accord. Mais d'abord, pour savoir quoi faire, précisément, il faut savoir ce que l'on est vraiment. Quelle est votre véritable identité? Et Pierre va leur montrer leur véritable identité en tant que chrétien. Il dit, et il nous montre cela, parce qu'il écrit à nous aussi, hein, bien sûr, la parole de Dieu nous est adressée. Il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés, dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voilà ce qu'il leur dit. Et ensuite, à partir du verset 3, il va parler du salut. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, il va exprimer ce salut. Et puis, la certitude, la garantie, la sécurité que le chrétien a. Regardez au verset 5, il dit, verset 4, il parle de cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et puis il dit au verset 5 qu'il vous est réservé dans les cieux à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et il dit voilà tout ce que vous avez. Okay? Et puis il dit que ce salut-là, même après, verset 6, il dit que c'est là ce qui fait votre joie, même s'il y a quelques difficultés. Et puis, au verset 10, il dit que les prophètes même ont prophétisé concernant ce salut. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque marquée par l'Esprit de Christ. Ils voulaient savoir des choses là-dessus. Et puis, il dit que, mais il leur a été dit que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils sont les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit qui a été envoyé du ciel et dans lequel, il dit, les anges désirent plonger le regard. Il dit, voilà tout ce que vous avez, voilà ce que vous êtes et voilà tout ce que vous avez. Et il dit, au verset 13, maintenant, il dit, c'est pourquoi. Et là, il commence avec une série, pourrait dire, d'exhortations. Il va continuer, chapitre 2, chapitre 3, avec des exhortations. Et donc, nous avions considéré la toute première chose qu'il soulignait à ces chrétiens, c'était le fait que, premièrement, ils sont étrangers, dispersés, et ils sont surtout élus selon la préscience de Dieu le Père. Nous avons considéré cet aspect-là dimanche dernier, le fait que les chrétiens sont choisis par Dieu dès avant la fondation du monde. Et non pas parce que ces chrétiens ont fait quelque chose ou parce qu'ils allaient faire quelque chose, mais c'est du propre, parce que Dieu les a aimés avant la fondation du monde. Il les a choisis pour lui et il est venu vers eux. Ici. Et donc nous avions considéré cet aspect de cette élection. Rappelez-vous, Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. D'accord? Alors qu'ils étaient à des années-lumière de penser à quoi que ce soit, eh bien Dieu les a choisis. Ça a été de même pour chaque croyant, chacun d'entre nous. Dieu nous a choisis. Ce n'est pas nous qui sommes aller vers lui parce que nous avons ressenti un quelconque, quelconque désir. Nul ne cherche Dieu, dit l'apôtre Paul aux Romains, pas même un seul. Et donc c'est Dieu qui lui nous cherche et vient vers nous. Donc Pierre dit, souvenez-vous de cela, sachez cela, vous avez été élus selon la préscience de Dieu. Et ce qu'on voudrait considérer ce matin, il dit par la sanctification de l'Esprit, afin que vous deveniez obéissants et participants à l'aspersion du sang de Christ. Et il faut relever ici vraiment le caractère trinitaire de cette élection-là. Pierre élève les yeux des croyants vers le fait qu'ils ont été élus par Dieu le Père, par la sanctification, Dieu le Saint-Esprit, et pour qu'ils deviennent participants à l'aspersion du sang de Dieu le Fils de Jésus-Christ. Donc il y a l'action trinitaire de Dieu dans le salut. Et ça donne une sécurité, n'est-ce pas, parce que plus tard, il dit, vous êtes gardés par la puissance de ce Dieu-là. Vous êtes gardés par la puissance de ce Dieu-là et par la foi en lui, pour le salut qui va être à un moment donné parfaitement accompli. Donc dans cette lettre destinée à affermir le croyant au sein des épreuves, Pierre commence par établir vraiment cette réalité. Donc nous voulons considérer la seconde chose qu'il dit ici. Il dit que vous êtes élus selon la préscience de Dieu le Père, mais par la sanctification de l'Esprit. Donc les chrétiens sont élus par la sanctification de l'Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, Pierre ici qualifie l'œuvre de l'Esprit dans le dessein d'élection de Dieu. Et il dit que les croyants sont élus par la sanctification, c'est-à-dire que le ministère de l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit, c'est une œuvre de sanctification. C'est par la sanctification qui est opérée par l'Esprit Saint que les différents buts, on pourrait dire, de l'élection sont mis en œuvre. Alors, pourquoi Dieu a-t-il choisi ces personnes dont Pierre parle? Il dit pour l'obéissance à Christ, c'est ce qu'il dit dans le verset, et par la sanctification de l'Esprit. L'apôtre Paul énonce la même vérité, ça c'est l'apôtre Pierre ici, l'apôtre Paul énonce la même vérité dans 2 Thessaloniciens, presque mot pour mot. Écoutez comment il dit, 2 Thessaloniciens verset 2, chapitre 2, verset 13, il dit « Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet et puis rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » C'est l'obéissance à la vérité de Dieu. C'est quasiment la même formulation ici. Et on voit encore là qu'il parle de ce ministère du Saint-Esprit qui est la sanctification. Et donc, on peut conclure ici qu'il veut souligner, il veut mettre dans leur esprit qu'ils ont été élus, bien sûr, par la présence de Dieu, choisis dès avant la fondation du monde, mais aussi le Saint-Esprit est à l'œuvre dans cette élection du croyant pour le sanctifier. Le nom Saint-Esprit attribué à la seconde personne de la Trinité, dit quelle est son œuvre principale. Il s'appelle le Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas parce que c'est la seule personne de la Trinité qui est sainte, ni que c'est la seule personne de la Trinité qui est esprit. Dieu est esprit, éternel, infini, immuable, vous rappelez ça, hein? D'accord ? Est-ce que la seconde personne de la Trinité est aussi esprit ? Ben oui, tous les attributs de Dieu sont les mêmes pour les personnes de la Trinité. Est-ce que Dieu le Père est saint? Oui. Est-ce que Dieu le Fils est saint? Oui, il est appelé le Saint. L'apôtre Pierre disait, vous avez renié, dans sa prédication à la Pentecôte, il dit, vous avez renié le Saint et le Juste, en parlant de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas la seconde personne de la Trinité seulement qui est saint, et puis qui est esprit. Pourtant, la seconde, elle s'appelle le Saint-Esprit, et cela souligne quoi, le fait que son ministère, le ministère spirituel de sanctification du croyant. Et donc, le Saint-Esprit reçoit particulièrement ce ministère dans l'œuvre du salut, de sanctifier le croyant. Je vous rappelle, on se rappelle que quel est le grand dessein de Dieu ? Si on vous disait quel est le grand dessein de Dieu, imaginez qu'est-ce que vous répondriez. Quel est le verset qui viendrait à votre esprit pour donner le grand dessein de Dieu, hein? Romains chapitre 8 et au verset 29 où il est dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. » Voilà le dessein de Dieu. Que de pécheurs, eh bien, il fasse des êtres sauvés, rachetés, transformés à l'image de son Fils. C'est ce que Dieu est en train d'accomplir. C'est cette œuvre dont l'apôtre Paul parle, dans Philippiens chapitre 1 verset 6 quand il dit celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Qu'est-ce qui deviendra parfait? Nous serons transformés véritablement à l'image de Christ. L'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, parce que nous savons que lorsque cela sera, nous serons comment? Semblables à lui. Donc il y a une œuvre de transformation que Dieu accomplit. Et ce verset, Romains 8, 29, dans Parole de vie, est dit comme ça, est traduit comme cela. En effet, ce que Dieu a choisi d'avance, donc on est bien dans ce thème-là que Pierre souligne, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils, la ressemblance à Jésus-Christ. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Et donc la transformation du croyant à l'image de Christ est le dessein, bien sûr, que Dieu a décidé. Donc ce dessein implique bien sûr, le sacrifice de Christ à la croix et l'œuvre du Saint-Esprit pour appliquer ce salut aux croyants. Et le Saint-Esprit agit en sanctifiant vraiment le croyant. Ce que Pierre souligne ici, mais le mot sanctification ici, qu'est-ce qu'il veut dire véritablement? Je crois qu'on avait, le frère Jean-Pierre avait, quelques mois, peut-être semaines, nous avait enseigné là-dessus. Qu'est-ce que la sanctification, qu'est-ce que ce mot-là veut dire, premièrement? Dans notre esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ce qui saute tout de suite à notre esprit quand on pense à la sanctification, c'est la pureté, le fait d'être sans péché, d'être de plus en plus saint. D'accord? Mais le mot en lui-même veut dire mis à part. Il veut dire mis à part. D'accord? Et ce mot-là est utilisé pour des ustensiles. Dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, il y avait des ustensiles qui étaient mis à part, sanctifiés, consacrés. D'accord? Ça ne veut pas dire que les ustensiles avaient de moins en moins de péché. Hein? Un bol n'a pas plus ou moins de péché. Hein? Ou les brebis qui étaient consacrées. Hein? D'accord? Ça veut dire qu'ils étaient mis à part pour un usage exclusif. C'est ça que ça veut dire. Et donc, quand Pierre parle de la sanctification, la première chose qu'il souligne, probablement, quand il dit « élu selon la préscience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit », il dit que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous mettre vraiment à part pour Dieu. De séparer, il y a l'idée de séparation. Okay. De séparation ici. Sinclair Ferguson, un théologien, il dit ceci, il donne de la sanctification cette définition. Il dit, Dieu sépare les hommes et les choses pour sa propre possession et ses propres objets. Donc, il choisit et puis il les met à part pour lui-même et pour qu'il puisse les utiliser à sa gloire. C'est ça que ça veut dire en fait la sanctification. Avant d'être peut-être ce qu'on a tendance à développer. En 1 Chroniques chapitre 23 verset 13 par exemple, il est dit, Dieu parle à Moïse, etc. Donc c'est un rapport de cette histoire. Et puis il est dit, Aaron fut mis à part pour être sanctifié. On trouve les deux expressions, fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel et pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. D'accord. Donc vous voyez, mis à part pour être sanctifié, c'est la même expression ici, comme très saint, lui et ses fils, pour offrir, pour servir, pour faire quelque chose. Donc c'est le fait d'être consacré à un usage exclusif. Un peu, c'est ce que Pierre dit un peu plus loin, chapitre 2, quand il dit, par exemple, au verset 9, il dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Vous étiez où avant? Dans les ténèbres, et maintenant vous êtes où? Son admirable lumière. Il vous a choisi et il vous a mis à part. Pourquoi faire? Il continue. Il dit, afin que vous annonciez ses vertus. Donc, vous êtes après à son service. Et donc, la sanctification de l'esprit concerne cela. Et on peut penser, donc il y a vraiment cette idée d'être passé d'un état, d'une sphère d'évolution à une autre sphère. Une sphère où on vivait pour notre propre gloire, on accomplissait les désirs de notre propre chair, à une sphère où maintenant on est utile et exclusivement réservé à Dieu lui-même. pour sa gloire. C'est ce que Dieu avait dit, rappelez-vous, à Pharaon, quand son peuple est en Égypte, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve quelque part au désert. » Il fallait se séparer pour pouvoir servir Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle de la résurrection des morts et exprime pour le croyant cette sanctification finale en disant « De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. » Voilà donc cette œuvre qui s'accomplit, hein, c'est-à-dire on passe de cette image terrestre, il y a cette transformation et puis aussi on aura cette image, bien sûr, qui est une image céleste. Mais avant cela, bien sûr, il faut qu'on soit sanctifié, mis à part. Donc on pourrait dire ici que cette sanctification, on a tendance à la séparer en deux dans l'Écriture, on parle de sanctification de position, hein. Donc une sanctification que l'on qualifie parfois de sanctification positionnelle, le croyant, bien que conscient de ses propres péchés, n'est-ce pas, qui sont encore présents dans ses membres, est quand même appelé saint. L'Écriture appelle le croyant saint. L'apôtre Paul écrit aux saints qui sont à Éphèse, par exemple. Et même, il dit, dans 1 Corinthiens, il dit ceci, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés. Mais il ne parle pas ici du fait qu'ils vivent sans péché, puisque quand on lit la lettre aux Corinthiens, c'est qu'une lettre corrective. Hein. On entend ce qui se passait dans cette église, on dit « Ouh là 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 hein. !» Désanctifier ça. Et pourtant, oui, Paul dit « À ceux qui ont été sanctifiés, l'église de Dieu qui est à Corinthe et ceux qui ont été ici sanctifiés en Jésus-Christ. » Donc cette sanctification fait référence, je crois ici, à l'œuvre de l'Esprit, on pourrait dire l'œuvre initiale de l'Esprit dans le croyant, où il le met à part. Je pense, si on peut avoir une idée juste de cela, il faut regarder un peu ce que Jean raconte dans son évangile quand il parle de la rencontre de Jésus et de Nicodème, Jean chapitre 3. Alors regardez Jean chapitre 3, ici, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, et au verset, Jean chapitre 3, j'espère que vous connaissez bien, on peut aller depuis le verset 1, il dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint voir Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu naît avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître? Nicodème, il comprend la question, ce que Jésus souligne. Il dit, on ne peut pas naître soi-même. Comment je vais faire? Rentrer dans le sein de ma mère et puis après renaître? Il dit, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. D'accord. Et donc, il dit ici, hein, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut naître de l'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui vienne d'en haut. Le texte dit naître d'en haut. Et qu'il soit opéré par l'Esprit afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et je crois que quand Pierre parle de cette sanctification de l'Esprit, il parle de cette action aussi première de l'Esprit, hein, qui doit intervenir sur ce que Dieu choisit. D'accord. Et donc c'est une œuvre de régénération. Le Saint-Esprit opère ici une séparation initiale et on comprend bien dans ce que Jésus dit à Nicodème, il disait que c'est une œuvre qui est exclusive au Saint-Esprit. L'homme ne peut rien faire pour cela. C'est le Saint-Esprit qui vient, qui doit faire naître. Et il dit même à Nicodème, tu devrais savoir cela, toi qui es docteur de la loi. Et on peut se poser la question, mais comment est-ce que Nicodème pourrait savoir cela? Jésus lui dit qu'il aurait dû savoir cela. Où est-ce qu'il aurait dû le savoir? Ben, dans l'Écriture, c'est un docteur. Et donc, on pense évidemment, quand Jésus dit ça, à Ézéchiel chapitre 36, Je lis pour vous ce qu'il dit ici au verset 25 et 27, où l'eau et l'esprit sont utilisés ensemble, et il dit ceci, et Jésus, Dieu dit par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel, il dit, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. » Il parle donc de la Nouvelle Alliance ici, hein, les termes de la Nouvelle Alliance. « Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de fois où il dit « Je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci, je ferai cela. » Il ne dit pas « Je ferai ça et tu feras ça. » Non, non, il dit « Je ferai ceci. » Juste, c'est une œuvre exclusive de Dieu dans laquelle il place son esprit dans l'homme pour le racheter et il le fait vivre, il lui rend même capable d'obéir, dit-il, à ses lois. Et Jésus dit à Nicodème, tu aurais dû savoir ces choses, qu'il faut une action spirituelle pour que l'homme puisse naître et entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, quand Dieu choisit, Pierre dit, Dieu choisit par sa préscience et par la sanctification de l'esprit, il y a cette œuvre initiale de l'esprit qu'il faut considérer. Tite dit ceci, Paul dit dans l'épître de Tite, Dieu nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc il faut cette œuvre initiale du Saint-Esprit qui vient, qui sépare, qui nous met à part pour Dieu, mais qui aussi continue à œuvrer dans notre vie. C'est ce qu'on appelle parfois la sanctification progressive. Et l'Écriture parle de cet aspect aussi de la sanctification qui est le détachement du péché et nous pousse à rechercher cette sanctification. Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Et c'est le ministère du Saint-Esprit que devrait aussi à cette sanctification. Son ministère principal dans la vie, c'est la sanctification, la mise à part, mais la mise à part aussi, initiale, on pourrait dire, et puis l'éloignement aussi du péché pendant toute la vie du croyant. 2 Corinthiens 3, 18 dit « Et tous, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'état ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » C'est le Saint-Esprit qui opère dans le croyant cette œuvre. Et Pierre le rappelle ça. Souvenez-vous, choisis selon la préscience de Dieu le Père, mais sous l'action sanctifiante, vous êtes, du Saint-Esprit. Alors, on peut parfois avoir des idées confuses sur le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit m'a dit ceci, le Saint-Esprit m'a dit cela. Je sens que c'est l'Esprit qui m'a guidé dans ce choix. Alors, bien sûr que ça arrive, le Saint-Esprit. Donc, si c'est des choses qu'il dit, que les choses sont contraires à la parole de Dieu, déjà, c'est pas bon. Mais c'est pas tellement ce que le Saint-Esprit dit qui est une chose, parce que toute l'Écriture, c'est ce que le Saint-Esprit a dit. Hein, okay, déjà, nous avons déjà. Mais c'est ce qu'il fait aussi dans notre vie. Il œuvre à la sanctification. Et c'est là qu'on doit rechercher son action. Parfois, on dit, mais quelle est la volonté? J'aimerais savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi en tant que chrétien. Mais la Bible est claire, la volonté de Dieu pour nous, c'est la sanctification. C'est ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, où il parle des péchés corporels, de l'impudicité. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Donc, voilà la volonté de Dieu pour chacun de nous. Et nous sommes appelés, n'est-ce pas, à faire mourir les actions mauvaises de notre corps en nous appuyant sur la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit en Romains 8, versets 12 et 13, il dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. » Par l'Esprit, hein, vous faire mourir, mais par l'Esprit. Par nous-mêmes, on ne peut pas, mais par l'Esprit. Parce que c'est son ministère de nous purifier. Ainsi, Pierre affirme que Dieu, le Père, a choisi les hommes et les femmes dans lesquels il opère une œuvre de sanctification. Et la seconde personne de la Trinité est entièrement dévouée à cette tâche. Donc à ces chrétiens qui souffrent, alors qu'ils font ce qui est bien, ce qu'il dit dans cet épître, hein, Pierre leur rappelle leur identité et particulièrement l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans leur vie par le Saint-Esprit, qui a consisté donc à les mettre à part pour Dieu, les sanctifier, les consacrer, les séparer, et puis œuvrer en eux pour les transformer et les purifier. Et même cette souffrance qu'ils connaissent est un moyen que Dieu utilise pour la purification. Rappelez-vous ce qu'il dit en hébreu, il dit que Dieu châtie ce qu'il aime, et qu'il les rend ainsi participants à sa sainteté. Participant à sa sainteté, d'accord, à travers le châtiment, les souffrances que l'on peut aussi connaître. Donc, il arrive que dans la souffrance, on se demande quelle est la volonté de Dieu. Dans ce sentiment de solitude que j'ai, quelle est la volonté de Dieu pour moi? J'aimerais bien savoir. Dans ce foyer où le conjoint ne connaît pas Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette entreprise où les supérieurs sont invivables? Bien, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Parce qu'il vous a élu par la préscience de Dieu le Père, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, qu'il œuvre en nous pour nous sanctifier. Ça, c'est la première chose, seconde chose plutôt que Pierre dit. Puis deuxième, ici, il dit, afin qu'ils obéissent, qu'ils deviennent obéissants, verset 2, de 1 Pierre 1, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc la sanctification, ici, a pour conséquence, ici, l'obéissance. Il dit, élu selon la préscience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, afin de, pour obéir, et devenir participant à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Obéissance et sainteté vont ensemble. Élection et obéissance et sainteté vont ensemble. Pierre donne ici, je crois, une manière de considérer le salut. Parfois, on peut avoir du salut une idée un peu personnelle. Je suis sauvé, Dieu m'a sauvé de la condamnation du péché. Tout est bon, ok, c'est bien, je suis content, je suis en sécurité. Peu importe ce que je fais dans ma vie. On voit que non ici. Pierre dit, élu selon la présence de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, voilà l'œuvre que l'Esprit de Dieu est en train de mener en vous, donc ça fait réfléchir. Et puis pourquoi? Pour que vous deveniez obéissants à Jésus-Christ. Il y a une obéissance. Et que vous participiez à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. On pourrait se demander, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh bien, on dit que dans l'épître de Pierre, il y a beaucoup d'allusions à l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on trouve ce lien qu'il y a entre le sacrifice, l'aspersion de sang, qui nous ramène à la purification, au pardon des péchés, et l'obéissance. Alors regardez avec moi dans Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Et probablement, Pierre a cela en tête, Exode chapitre 24. Mais c'est tout l'épisode où Dieu donne des lois à Moïse et des prescriptions. Et au début du chapitre 24, on va lire les huit premiers versets, il dit, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Verset 3, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles et les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Le peuple manifeste son désir, quoi ? D'obéir à Dieu. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel holocauste et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit, il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, il le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. On a ici rassemblé les deux choses. Le peuple qui dit « nous obéirons » et l'aspersion du sang, d'accord, qui vient sceller cette alliance de, on pourrait dire, pardon-obéissance. Le sang représente ici le fait que Dieu pardonne, même l'autel était aspergé du sang aussi, et puis le peuple, avec son engagement d'obéissance, aussi est aspergé par le sang. Donc, et Moïse dit, voilà, c'est l'alliance ici. Il dit ça bien. Voici le sang de l'alliance. Exactement les mêmes paroles que Jésus a prononcées quand il a institué la scène. C'est ici le sang de l'alliance. Il dit. Donc Jésus cite aussi cet épisode-là. Et donc, on voit ici que Moïse rapporte les paroles de Dieu. Moïse fait immoler un taureau. Le peuple s'engage à l'obéissance. Et Moïse asperge le peuple du sang de l'agneau, du sang des taureaux. Et Pierre dit ici que Dieu vous a élu selon la préscience de Dieu, selon la préscience du Père, par la sanctification de l'Esprit, afin que vous deveniez obéissant et que vous participiez à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc ici, il parle vraiment du fait du lien qu'il y a entre le fait d'être d'avoir le sang de Christ qui est appliqué à notre propre vie, à sa propre vie, et d'obéir. Il n'y a pas de salut sans obéissance. C'est ça qu'il est en train de dire. Il n'y a pas de bénéfice du sang de Jésus-Christ sans obéissance. Plutôt dans la vie. De même qu'il a fallu, le sang est venu sceller d'une part l'obéissance de Christ et la promesse de Dieu, l'obéissance du peuple, pardon, et la promesse de Dieu de pardonner les péchés. De même, sous la nouvelle alliance, eh bien, le sang scelle aussi cela. D'accord ? Bien sûr, les termes ne sont pas exactement comme dans l'Ancien Testament, mais c'est cela que ça veut dire. Et quand on regarde dans Hébreu, cela paraît tout à fait clair. Hébreu chapitre 9, regardez Hébreu chapitre 9, ici. Hébreu chapitre 9, où cet épisode de Exode 24 est rapporté à partir du verset 11. À partir du verset 11, je lis, « Mais Christ est venu comme souverain des souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang et a obtenu une rédemption éternelle. Car, dit-il, verset 13, si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés. On a l'image là ici, hein, du sang qui a été répandu. Procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et il dit, voilà ce que cela accomplit. Il y a une purification des péchés, mais il y a aussi une purification qui va jusque dans la conscience, afin que vous soyez obéissants et que vous serviez, c'est ça que ça veut dire servir, hein. C'est pas juste faire ce que j'ai envie de faire dans l'église, etc. Non, non, c'est vraiment obéir, servir c'est obéir, hein, à Dieu, obéir à sa parole. Et pour que vous soyez capable de servir, dit-il ici, le Dieu vivant, ici. Donc, quand Pierre dit ici, élu selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour devenir obéissant et participant à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, il est en train de dire qu'il y a un lien fort dans ce salut, dans cette élection. Vous êtes élu pour obéir à Dieu. D'accord ? Et ce que produit le sang de Christ, hein, ce que produit le sacrifice de Christ dans la vie du croyant, c'est qu'il le rend obéissant. Lui qui auparavant était opposé à Dieu, ennemi de Dieu par ses pensées, maintenant quand il est choisi et qu'il est sous la puissance sanctifiante du Saint-Esprit, il est au bénéfice du sang de Christ qui est versé sur lui. Ses péchés sont pardonnés et il obéit. Il devient un enfant obéissant. C'est pour cela qu'il dit chapitre 1 et au verset 14, il dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez donc point aux convoitises que vous aviez autrefois, lorsque vous étiez dans l'ignorance. » Maintenant, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Vous savez ce qui s'est passé. Vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez été aspergé du sang de Jésus-Christ. Tous les bienfaits du sacrifice du Christ vous ont été attribués. Alors, vous devez être obéissant. Parce que dans la nouvelle alliance, l'Esprit que Dieu donne, il dit dans l'Écriture, hein, Dieu lui-même dit, je ferai en sorte que vous observiez mes lois et mes commandements. Dieu lui-même, par son esprit, rend capable d'obéir. Et quand on lit l'Écriture, on voit combien l'obéissance est attachée au salut. L'apôtre Paul dit ceci, il indique son apostolat, en quoi il consiste. Il dit ça en Romains chapitre 1, verset 5. Je vais vous lire cela. Il le dit dans ces mots. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, sanctifié, hein, pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes des Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, tiens en passant, encore au ministère de l'esprit, hein, l'esprit de sainteté, hein, son œuvre sanctifiante, par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Sauveur, verset 5, par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Voilà son ministère, amener à l'obéissance de la foi. C'est-à-dire que quand on se convertit, c'est pour devenir obéissant et pour être conduit à l'obéissance de la foi. En Romains chapitre 15, versets 18 et 19, il parle de toute la puissance que Jésus-Christ a déployée et il dit « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi pour amener les païens à l'obéissance ». Par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Il dit voilà ce que Christ fait quand l'évangile se propage, c'est qu'il il déploie des trésors de puissance pour amener le païen à l'obéissance de la foi. Et donc, il y a un lien étroit, chers frères et sœurs, entre le salut et l'obéissance. Celui qui dit qu'il est sauvé, qui n'obéit pas, il y a un problème. Il y a un problème. Celui qui dit oui, je suis au bénéfice du sang de Christ, mais il marche dans la désobéissance constamment, il y a un problème. Il y a un problème parce que ces choses sont liées. On est élu selon la présence de Dieu par la sanctification de l'Esprit pour obéir. Pour obéir. Et Dieu ne saurait échouer dans ce qu'il fait. Puisque c'est son œuvre. Il saurait échouer dans ce qu'il fait. Donc il faut être attentif à cela. L'apôtre Paul dit à ses Romains, « Grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » La preuve que quelqu'un devient vraiment un enfant de Dieu, c'est qu'il passe, d'après ce que Paul dit ici, d'un état d'esclave au péché à un état où il obéit de cœur à la règle, aux règles de doctrine, à la parole de Dieu, à l'ensemble de la parole de Dieu. Il l'épouse, il l'embrasse, il l'accepte et il s'y soumet. Non pas parce qu'il a la force de le faire, mais parce que l'Esprit de Dieu agit en lui pour le sanctifier et pour le conduire à se soumettre à la parole de Dieu. Et c'est la preuve qu'il est un véritable enfant de Dieu. Le dessein de Dieu est de rendre capable d'obéir. Et l'obéissance est le but de la sanctification du croyant. Il n'y a pas de salut sans obéissance. Donc l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre termine, et je vais terminer avec cela aussi, en disant que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et ça, c'est la plus grande bénédiction que l'on puisse prononcer. Quelle parole de bénédiction vous auriez aimé entendre? Qu'est-ce que vous auriez aimé que l'on vous souhaite? Parfois, les gens disent, souhaite-moi quelque chose. Pierre dit à ses auditeurs, voilà ce que Dieu a fait, voilà qui vous êtes. Mais, d'accord, étranger, les gens vous rejettent, mais voilà qui vous êtes. Choisi selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour vous rendre obéissant et participant à l'aspersion du sang de Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ça, c'est voilà, qu'elle soit abondante pour vous. Mais ça, c'est la bénédiction que Dieu avait donnée à Moïse et qu'il prononce sur son peuple en Nombre chapitre 6. C'est la bénédiction des bénédictions. Et je vais vous la lire parce que chaque fois que vous avez envie de vous encourager, être béni, voilà ce qu'il faut penser. Comment Dieu lui-même dit qu'il faut bénir son peuple. Et c'est exactement ce que Pierre fait ici. En Nombre chapitre 6, il dit ceci. Nombre chapitre 6 et au verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron, ses fils, et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Et vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. » Un autre premier mot. Verset 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Que la grâce et la paix, dit Pierre, te soient multipliées. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Vous voulez bénir, que les enfants de Dieu soient bénis. Voilà ce qu'il faut leur souhaiter. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ te soient multipliées. Il n'y a pas de paix sans la grâce de Dieu. Il n'y a pas de paix sans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a pour fruit la paix qui règne dans le cœur, n'est-ce pas? C'est ce que l'Évangile nous dit. Hein, d'accord? Il a été justifié par la foi en Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu. Ça, c'est la bénédiction suprême que Pierre donne à ses auditeurs. C'est la première chose qu'il fixe dans leur esprit. Il fixe leur esprit vers le Dieu trinitaire, vers le salut qu'il a opéré, de sa propre initiative, exclusivement à cause de choses qui se trouvent en lui-même, qu'il est en train d'opérer. Et puis il dit que cette grâce-là et cette paix-là vous soient multipliées. Avant qu'il leur donne quoi que ce soit comme, comme autre exhortation. Et je voudrais juste conclure ceci. C'est que la réalité de l'élection est une motivation profonde, n'est-ce pas ? Puisque c'est par là que Pierre commence. Donc il veut motiver les lecteurs à comprendre ces choses pour qu'ils puissent vivre, les appliquer en leur pensée, penser à ces choses et puis vivre par elles. Paul dit par exemple dans Colossiens 3:12, il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de patience, vous supportant les uns les autres. Et si l'on a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. » D'accord ? Il dit, pensez, vous êtes des élus de Dieu, alors voilà ce qui doit découler. Vous voyez, donc c'est une profonde motivation. C'est une grande motivation aussi. Je ne suis pas, peut-être pas noté ce passage, mais c'est dans 2 Timothée où l'apôtre Paul appelle Timothée et puis lui dit « Souffre avec moi hein. ». Il dit qu'il souffre à cause des élus de Dieu. Il leur annonce, hein, il accepte la souffrance parce qu'il sait que Dieu a son peuple auquel il faut qu'il prêche l'évangile. Et il accepte de souffrir pour cela, n'est-ce pas ? Quand il devait rentrer, je crois que le Seigneur, quand il devait rentrer à Corinthe, eh bien, il avait peur. Il a dit, je suis arrivé chez vous avec tremblement et tout. Il ne savait pas. Et puis Dieu, dans une vision, lui apparaît et lui dit, ne te tais pas. Parle parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il ne savait pas qui était le peuple de Dieu là-dedans. Il connaissait, mais il est allé avec l'encouragement que Dieu avait son peuple là-bas. Et je me souviens, je parlais avec un frère une fois, je crois que c'est la région de Bordeaux, et puis il me dit, moi je reste là parce que je sais que Dieu a son peuple. Il n'est peut-être pas nombreux, mais Dieu a son peuple. C'est ce qui m'encourage à rester là-bas. Personne qui l'a déjà désigné. Et c'est ça qui ça encourage, n'est-ce pas, à œuvrer. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que la manifestation du fruit de l'esprit dans la vie prouve que l'on est vraiment choisi par Dieu. Paul dit ceci aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 1, verset 4. Il dit, nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montés, que nous sommes montrés ainsi parmi vous, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Ceux qui reçoivent la parole, n'est-ce pas, et dans lesquels on voit la joie du Saint-Esprit, parce qu'il dit, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Quand on voit cela, on sait que Dieu est véritablement à l'œuvre dans la vie. Donc, le fruit de l'esprit qui se produit dans la vie donne cette assurance que Dieu est à l'œuvre dans la vie. Et j'ajouterai ici que le signe évident de la présence de l'esprit n'est pas la manifestation spectaculaire, guérison, ceci ou cela, etc., sur lequel on a tendance à se focaliser. C'est pas ça qui dit que l'esprit est à l'œuvre. Ce qui dit que l'Esprit est à l'œuvre, c'est quand il y a la sanctification, la sainteté. C'est ça qui dit que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. D'accord ? Parce que l'Esprit, c'est l'Esprit de sainteté et de sanctification. Dieu ne vous a pas appelé, dit Paul, à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes et ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous voyez, il dit ici dans Thessaloniciens 4, versets 7 et 8, que Dieu appelle non pas à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, là où se voit, là où l'œuvre de l'Esprit se voit, c'est là où il y a de la sanctification, et c'est là où on accepte la sanctification. Quand on rejette cela, on rejette Dieu et on rejette aussi son Saint-Esprit. Ce n'est pas là où il y a des manifestations. L'Esprit de Dieu peut faire des manifestations. Je ne dis pas qu'il ne peut pas en faire, ce n'est pas ça que je dis. Mais il ne faut pas se tromper sur ce que l'on considère comme la preuve que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, eh bien une vie qui croit de plus en plus dans la sanctification. Même si cela se passe dans la douceur, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de choses extraordinaires, mais dans l'ordinaire, il y a une purification, un éloignement du péché. On peut clamer fort et haut, je suis conduit par l'Esprit, Dieu a ouvert les portes, l'Esprit de Dieu a ouvert les portes par ceci, par là. Ce n'est pas pour ça que c'est la volonté de Dieu. Dieu a permis à Jonas de trouver un billet pour aller pêcher dans l'autre sens. Hein. Il devait aller à Ninive, il est allé à Tarsis. Est-ce qu'il a trouvé un billet? Oui, Dieu n'a pas fermé les portes. Hein. Il aurait pu ne pas trouver de billet, pas de bateau, rien du tout. Il a trouvé un bateau, un billet, tout de suite, il est parti. Il aurait pu y arriver là-bas, mais Dieu a permis que j'arrive là-bas. Hein, c'était sa volonté. Il y a des gens, parfois on raisonne comme cela. Hein, on raisonne comme cela. Non, il faut être extrêmement attentif. Hein. Là où l'Esprit de Dieu agit, c'est là où on voit des œuvres évidentes de croissance spirituelle dans la sainteté. Et puis, je termine en disant aussi, l'obéissance à la parole de Dieu caractérise, chers frères et sœurs, le vrai croyant. Si on ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, il y a un souci. Il y a un souci. Puisqu'on voit clairement ici, que Dieu choisit pour rendre obéissant. Il n'y a pas de salut vraiment sans obéissance. Il n'y a pas de salut sans obéissance. Et peut-être quelqu'un dans cette salle se dirait, oui, mais comment moi je vais savoir hein, si Dieu, parfois il y en a qui posent cette question, hein, si Dieu me choisit ou pas. La Bible n'invite jamais à se poser ce genre de questions. Il y a une fois des gens qui se sont aventurés à poser à Jésus la question. Je vous la lis en Luc chapitre 13, verset 23. Quelqu'un dit à Jésus, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Hein, on pourrait parler, voilà, tu n'en as choisi que très peu. Et la réponse de Jésus, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. J'aime trop ça. Ce n'est pas notre problème. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. D'accord. Alors quand il nous les dévoile, il nous les dévoile. D'accord. Mais ce à quoi l'Évangile appelle tous les hommes, quels qu'ils soient, c'est qu'ils se tournent vers Dieu. Et la Bible dit que celui qui se tourne vers Dieu, il n'y a personne, comme disait Spurgeon, personne qui un jour pourra dire à Dieu, j'ai été cherché, j'ai voulu venir à toi, j'ai prié, mais tu m'as rejeté. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous occupez pas de ceux qui ne vous regardent pas, des choses qui sont trop hautes pour vous. D'accord ? Contentez-vous de vous soumettre à ma parole. Repentez-vous. Et si vous êtes là ce matin, vous posez des questions, vous ne connaissez pas le Seigneur, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous repentir, de vous tourner vers Jésus-Christ. Et la Bible promet que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça le message de l'Évangile. Et en même temps, il dit que tous ceux qui viennent à Christ, ils ont été élus par la préscience de Dieu le Père, par la sanctification du Saint-Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alors que la grâce et la paix leur soient multipliées. Et si vous êtes au Seigneur ce matin, je dis que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que nous sommes assurés de ton secours, comme nous l'avons chanté ce matin, mais aussi assurés que ces vérités profondes ne dépendent pas de nous, et fort heureusement. Nous sommes assurés que c'est toi qui garantis le salut, c'est toi qui appelle, c'est toi qui accueille, que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Que ta volonté n'est pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se repente et qu'il vive. Et je te prie, Seigneur, pour que tu attires encore aujourd'hui même des âmes à toi, afin qu'elles se tournent, qu'elles passent des ténèbres à ton admirable lumière, et qu'elles soient rendues capables d'annoncer tes vertus. Nous te remercions, Seigneur, parce que c'est ton plan dès avant la fondation du monde. Et tu es le seul Dieu juste et qui sauve. Que ton nom soit béni. Amen.